à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guirec en direct de la capitale américaine, jeudi 20 juin 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir en Mauritanie, c'est le dernier jour de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle prévue samedi. Au Congo-Brazzaville, Anatole Ibongo Ngoka a obtenu le feu vert pour créer un nouveau parti politique, le Paradis. En Libye, Khalifa Haftar veut poursuivre son offensive pour conquérir Tripoli. Et puis, c'est la journée mondiale des réfugiés et toute notre partie magazine y sera consacrée. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. En Mauritanie, c'est le dernier jour de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle prévue samedi. 6 candidats sont en lice, dont Mohamed Oucheik Mohamed Ahmed, dit Oul Ghazouni, compagnon d'armes et dauphin du président sortant. Plusieurs candidats tiennent leur dernier meeting dans la capitale. Une correspondance de Mohamed Diop à Nouakchott.
La campagne termine ce soir à minuit et tout le monde prépare le sous-final. Autrement dit, la grande bataille de Nouakchott. En effet, la capitale abrite les tiers de la population, donc un vrai grenier électoral. Au total, 4 candidats sont en meeting ce soir à Nouakchott. Ce sont le candidat du pouvoir, le général Mohamed Ould Ghazouani, l'ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, le militant anti-esclavagiste Biram Dahabib et l'expert en communication Kan Hamidou Baba. Et puis, il y a cette étude réalisée par la commission électorale qui montre que 43% des électeurs sont âgés de 18 à 34 ans. Ce qui explique donc les thèmes de prédilection des candidats durant les 2 semaines de campagne électorale, à savoir jeunesse, emploi, éducation et santé. Les candidats ont aussi abordé la question des inégalités politiques, sociales et économiques que connaît le pays. Mohamed Diop, Nouakchott, VOA Afrique.
Au Niger, le gouvernement annonce que 18 terroristes du groupe État islamique dans le Grand Sahara ont été tués lors d'une opération du 8 au 18 juin dans l'ouest du pays, près du Mali. 5 terroristes, dont 3 Nigériens, ont été faits prisonniers. L'opération conjointe Aconite, réunissant les forces armées nigériennes et la force française Barkhane avec le soutien des partenaires américains, s'est déroulée dans la région frontalière nord de Tongo-Tongo. Aucune perte humaine ou matériel n'est déploré du côté des forces armées nigériennes, assurent les autorités. Le Forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme se tient à Ouagadougou. Le président Roch Kaboré a appelé à plus d'actions concertées dans la lutte contre les groupes djihadistes dont les attaques se multiplient dans les pays du Sahel. Président en exercice du G5 Sahel, il a insisté sur l'importance de plus d'actions concertées pour venir à bout de la menace terroriste. Il a également rappelé l'importance de la contribution ferme et engagée de la communauté internationale. L'un des 2 hommes arrêtés lundi en France, en même temps que le chef rebelle tchadien Mahamat Nouri, a été remis en liberté. Sa garde à vue a été levée en l'absence d'éléments incriminants, d'après le parquet de Paris. Il s'agirait d'Abderrahman Khalifa Abdelkerim, demi-frère d'un autre chef rebelle tchadien, Mahamat Nour Abdelhakim. L'enquête menée à Paris porte sur des soupçons de crimes contre l'humanité commis au Tchad et au Darfour. Le général Mahamat Nouri, considéré comme l'un des plus influents chefs rebelles tchadiens, et l'opposant Abakar Tolimi sont toujours en garde à vue. Au Congo-Brazzaville, Anatole Ibongo Ngoka a obtenu l'autorisation des autorités pour créer un nouveau parti politique, le Paradis. Compagnon du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 et jusqu'ici en prison, il assure vouloir poursuivre le combat de Mokoko et n'hésitera pas à se lancer dans la course à la présidentielle en 2021. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin à Brazzaville.
Anatole Ibongo Ngoka a été le coordonnateur national des comités de soutien du général Mokoko pendant la campagne présidentielle de 2016. Après avoir passé 30 mois en prison à la suite de cette élection, il a créé son parti, le Paradis, pour poursuivre les idéaux de l'officier général condamné à 20 ans de réclusion. Le parti d'Anatole Ibongo Ngoka a été agréé par le gouvernement. Le compagnon du général Mokoko a ensuite écrit au chef du fil de l'opposition, Pascal Tatimabiala, pour lui annoncer l'existence de ce parti qui ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle de 2021. Si le général Mokoko restait en prison jusqu'à cette date, alors nous serions candidats pour libérer le général et le Congo tout entier, a indiqué Limbongo Ngoka, qui estime toujours que Denis Sassou Nguesso reste un président de fait qui n'a pas gagné les élections de 2016. Une dizaine de compagnons du candidat malheureux Jean-Marie Michel Mokoko ont été libérés en octobre 2018. Limbongo Ngoka est le seul qui s'affiche politiquement aujourd'hui. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Manifestation ce jeudi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les protestataires dénonçaient la faible condamnation de deux mineurs et l'acquittement de cinq autres enfants, des personnalités proches de l'ancien président Joseph Kabila, accusés de viol collectif de leurs condisciples de 13 ans. Burundi, International Crisis Group déplore l'impasse dans laquelle se trouvent les discussions de sortie de crise. Le groupe de réflexion met en garde contre des violences lors des élections de 2020. Il dénonce également le manque de mobilisation des dirigeants est-africains. Khalifa Haftar veut poursuivre son offensive pour conquérir Tripoli. C'est ce que déclare l'homme fort de l'Est libyen, qui rejette ainsi l'initiative de sortie de crise proposée par son rival Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale. Les précisions de John Lyndon.
Dans un entretien accordé à deux sites d'information libyens, le maréchal Haftar affirme que son offensive, lancée début avril, ne s'arrêtera pas avant que tous ses objectifs ne soient atteints. Sur le terrain, selon lui, la situation est excellente et il appelle les Libyens à ne pas prêter attention aux rumeurs sur un retrait. Le 4 avril, le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale. Ses forces sont depuis bloquées aux portes de la capitale et les positions restent figées. Le maréchal s'est dit confiant dans la victoire et la possibilité d'une solution politique après les combats. Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen basé à Tripoli, a lui proposé récemment la tenue d'élections avant la fin de l'année. Il a accusé le maréchal de vouloir saper le processus démocratique pour rétablir une dictature. Khalifa Haftar s'en défend et assure ne pas s'opposer aux solutions politiques ou aux élections.
Au Soudan, les généraux au pouvoir ont démis de ses fonctions le procureur général. C'est ce qu'a rapporté l'agence officielle SANA quelques jours après des accusations de corruption retenues contre le président déchu Omar el-Béchir. L'agence de presse SUNA ne précise pas les raisons de ce renvoi. Par ailleurs, les autorités ont identifié le responsable de l'opération de dispersion d'un sit-in de manifestants qui a fait des dizaines de morts à Khartoum début juin. Le numéro 2 du conseil militaire n'a toutefois pas identifié ce responsable en précisant qu'il ne voulait pas influer sur l'enquête et n'a pas non plus précisé s'il avait été arrêté. Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a été convoqué le mois prochain pour témoigner devant la commission qui enquête depuis des mois sur les scandales de corruption qui ont éclaboussé son règne à la tête du pays entre 2009 et 2018. L'ancien chef de l'État n'a toutefois pas encore indiqué s'il répondrait à cette convocation. Monsieur Zuma a demandé à connaître les questions qui lui seraient posées, a poursuivi la commission qui s'est refusée à obtempérer. Elle s'est dite prête à envisager toute décision utile face au refus de Jacob Zuma de confirmer sa présence. Tanzanie, la justice a condamné à mort par pendaison trois musulmans. Ils avaient été reconnus coupables de l'assassinat à motivation religieuse en 2015 de quatre chrétiens retrouvés décapités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran a commis une grande erreur. Réaction du président américain après la chute d'un drone américain abattu par l'Iran. Un incident qui a encore fait monter la tension dans le Golfe et Vladimir Poutine de mettre en garde ce jeudi contre une catastrophe en cas de recours à la force des États-Unis contre Téhéran. Le point avec Idriss Fall.
L'Iran a fait une énorme erreur à lancer dans un tweet laconique le locataire de la Maison-Blanche. L'Iran a affirmé avoir abattu un drone espion américain dans son espace aérien. Washington a confirmé qu'un drone de surveillance de l'US Navy a été abattu, mais que l'engin se trouvait dans l'espace aérien international et dénonce donc une attaque injustifiée. Face à cette nouvelle montée de tension, le président russe Vladimir Poutine dit que ce serait une catastrophe pour la région et provoquerait une flambée de violence si les États-Unis utilisent la force contre l'Iran. Washington a déjà annoncé l'envoi de 1000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Téhéran a menacé de franchir une limite sur l'enrichissement de son uranium prévu par l'accord sur son programme nucléaire. Les États-Unis se sont retirés unilatéralement de cet accord avant de rétablir de lourdes sanctions contre l'Iran. Aussi, Washington accuse l'Iran d'avoir attaqué deux pétroliers le 13 juin en mer d'Oman. Ces accusations sont rejetées avec véhémence par Téhéran.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Le gouvernement burkinabé va lancer un programme d'environ 309 millions de dollars pour 14 projets afin de réhabiliter ses axes routiers. Un contrat de 18 millions de dollars pour la construction et le bitumage de 13 km de voirie dans la capitale. Environ 36 millions de dollars aideront à construire et à bitumer la route Fadangourmat-Bougondé. Ces projets sont majoritairement financés par le Fonds spécial routier du Burkina et la Banque africaine de développement. La Namibie veut attirer au moins 1 milliard de dollars d'investissement grâce à un sommet économique qu'elle organisera du 31 juillet au 1er août. Ce sommet vise à promouvoir la Namibie en tant que destination d'investissement et de tourisme, ainsi qu'à identifier les goulots d'étranglement qui ralentissent la croissance de l'économie. Terminons avec le dollar RTGS, la monnaie intérimaire du Zimbabwe qui a atteint un nouveau plancher sur le marché noir ce jeudi, chutant de 60% par rapport au dollar américain. Les entreprises augmentent leurs prix et les travailleurs du secteur public négocient une hausse de salaire. Plus de 80% des Zimbabwéens gagnent des dollars RTGS, mais les prix sont indexés sur le dollar américain.
Les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La secrétaire générale de la FIFA va évaluer la CAF en pleine tourmente.
Oui, la dirigeante sénégalaise Fatma Samoura a été nommée déléguée générale pour l'Afrique à partir du 1er août pendant 6 mois pour superviser la CAF secouée par des polémiques et scandales ces derniers mois. L'annonce a été faite par les deux instances. Écoutons le secrétaire général de la CAF, Mouad Hadji.
La CAF et la FIFA ont décidé de nommer d'un commun accord Madame Fatma Samoura en tant que déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique pour une période de 6 mois, renouvelable avec l'accord préalable des deux organisations. Madame Samoura sera assistée dans l'exercice de ses fonctions d'un groupe d'experts qui travaillera en étroite collaboration avec le président Ahmed.
L'arbitrage vidéo sera utilisé à partir des quarts de finale de la CAN.
Oui, l'assistance à l'arbitrage vidéo sera employée à partir des quarts. Au début, c'était prévu pour les demi-finales, mais nous avons exigé qu'il faut aller un peu plus en avant. Le comité exécutif a décidé pour les quarts de finale pour que ce soit une réussite, a déclaré le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Cette annonce était attendue depuis la polémique liée à la VAR qui a empoisonné la finale retour de la Ligue des champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca fin mai. Dans une décision inédite, la CAF avait tranché pour faire rejouer ce match que les Marocains, excédés, avaient quitté en seconde période après une panne de la VAR qui aurait dû leur valider un but refusé pour hors-jeu.
Les Lions indomptables réclament leur prime de participation à la CAN.
Les joueurs camerounais ont fait un mouvement d'humeur ce matin à leur hôtel à Yaoundé pour réclamer le paiement de leur prime de participation de 20 millions de francs CFA avant de s'envoler pour l'Égypte pour leur premier match. Les tenants du titre affrontent la Guinée-Bissau le 25 juin à Ismaïlia et selon le règlement intérieur de la compétition, les joueurs doivent rallier leur site 5 jours avant leur premier match sous peine d'être disqualifiés. Des négociations sont en cours entre joueurs et autorités camerounaises pour trouver une issue à cette affaire.
Pendant ce temps, la Tanzanie organise une collecte nationale pour motiver ses joueurs.
Les autorités ont lancé à Dar es Salaam une collecte nationale visant à réunir près d'1 million de dollars pour motiver la sélection nationale. Un tiers de la somme a été recueillie selon le vice-président du pays, Samia Suluhu, qui a souligné que l'objectif est d'atteindre environ 436 000 dollars. La Tanzanie jouera son premier match de CAN depuis 40 ans dimanche contre le Sénégal. Elle sera ensuite opposée à son voisin Kenya et à l'Algérie.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. C'est la journée mondiale des réfugiés. Au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, le Haut Commissariat des réfugiés a enregistré plus de 200 000 réfugiés rwandais, sud-soudanais ainsi que des Burundais qui ont fui la dernière crise électorale au Burundi. À l'occasion de cette journée du 20 juin, la VOA Afrique est allée à la rencontre de ces réfugiés à Goma. Comment y sont-ils intégrés? Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, est allé à la rencontre de Hamida Dorothée, réfugiée venue du Burundi, qui s'est installée à Goma en 2013.
Hamida Dorothée a quitté son pays, le Burundi, en 2013. Pendant plus de 5 ans, elle ne s'est rendue pas même à la frontière. Veuve et mère de 3 enfants, dont des petites filles et un petit garçon, elle vit à Goma en RDC.
Ce n'est pas la joie chez nous. Je vis avec mes enfants. C'est toujours compliqué, surtout pour avoir la nourriture. Et donc, si je ne gagne rien au salon de coiffure où je travaille, je n'ai nulle part où aller pour demander de l'aide. Personne pour m'assister.
Hamida Dorothée dit porter en elle les chagrins et une partie des séquelles de la guerre de son pays natal. Aujourd'hui, elle loue une maison de 2 pièces avec ses enfants à Katindodé, un quartier pauvre où l'eau coule rarement. Dans son pays, elle était pharmacienne, mais au Congo, elle n'a pas encore le droit de travailler. Grâce à la coiffure, un métier qu'elle a appris dès son arrivée à Goma, elle parvient à gagner quelques dollars pour subvenir à presque tous les besoins de son ménage.
C'est en 2013, à mon arrivée ici, que j'ai appris ce métier. Je me suis un peu intégrée et j'ai certaines clientes fidèles. C'est ce boulot qui m'aide à payer le loyer et certains petits besoins de ma famille. Mais les études des enfants restent le plus grand défi. Je gagne par semaine entre 5 et 20 dollars. Et c'est dans cette somme que je prends l'argent pour le loyer et la nourriture. C'est difficile. Nous sommes dans un pays étranger où même les citoyens ont beaucoup de difficultés. Il y a aussi des guerres.
Les moments de douleur dans son foyer, c'est quand ses enfants posent des questions sur leur père. Le mari d'Hamida a été tué au Burundi.
Quand les enfants me posent des questions, j'essaie un peu d'en parler. C'était dans la soirée, les rebelles sont arrivés en tirant des coups de feu. J'ai jugé bon de prendre mes enfants et partir. J'ai appris la nouvelle de la mort de mon mari quelques jours après mon arrivée ici au Congo.
Malgré les difficultés, elle a des ambitions. Elle veut avoir son propre salon pour les biens de ses enfants.
Actuellement, j'organise ma vie ici. Et dans les jours à venir, j'aimerais avoir mon propre salon de coiffure et peut-être engager d'autres réfugiés comme moi.
Après les derniers enregistrements biométriques de 2014, le Nord Kivu comptait environ 200 000 réfugiés rwandais, selon les Haut Commissariats pour les réfugiés. À elle seule, au 30 avril de cette année, la ville de Goma a enregistré 769 réfugiés, parmi lesquels 188 demandeurs d'asile. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Dans l'effort d'autonomisation des réfugiés du Cameroun, l'aide alimentaire a été remplacée par des transferts d'argent mobile. Un grand avantage pour les femmes qui ne dépendent plus de leur mari pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans le camp de Gado, près de la frontière centrafricaine, un reportage d'Anne-Mireille Zouanke, présenté par Michel Joseph.
Jenaba Abdoulaye, une réfugiée centrafricaine, habite au camp de Gado, dans l'est du Cameroun. Elle n'a plus besoin de demander de l'argent à son mari pour la ration quotidienne. Lorsqu'elle fait ses emplettes hebdomadaires, elle utilise l'argent que les responsables du camp transfèrent directement dans son téléphone portable. Jenaba Abdoulaye s'en réjouit.
Ce programme nous aide beaucoup. Nous sommes un ménage polygame comprenant 3 femmes et notre époux devait au départ récupérer l'aide alimentaire puis nous la distribuer. Maintenant, chaque femme a son téléphone et il reçoit l'assistance financière pour ses enfants et elle et en dispose comme elle l'entend.
Les agences caritatives du Cameroun ont introduit en 2016 l'aide humanitaire sous forme de transfert d'argent mobile dans un souci d'efficacité. Nanaya Amoag, du Programme alimentaire mondial.
Le PAM assiste actuellement environ 48 000 réfugiés par transfert d'argent mobile. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'argent liquide devient de plus en plus important dans l'appui du PAM. Il donne aux bénéficiaires le choix des aliments disponibles.
Le transfert d'argent mobile en faveur des réfugiés n'est pas spécifique au camp du Cameroun. Mais pour les réfugiés centrafricains, qui sont en grande partie de tradition polygame, les femmes sont chacune traitées comme chef de famille et, de la sorte, autonomisées. Tout le monde s'en réjouit, comme Lamine, réfugié et commerçant dans le camp de Gado.
Le programme me permet de me prendre en charge et de m'occuper de ma famille. Je ne dépends plus de l'aide alimentaire. Grâce à ce programme, je peux m'acquitter des frais scolaires de mes enfants et équiper ma maison.
Bien que limitée par les difficultés du réseau téléphonique, l'utilisation des transferts d'argent mobile en faveur des réfugiés est appelée à s'accroître, donnant ainsi aux réfugiés un plus grand choix alimentaire dans la mesure où ils peuvent ainsi acheter ce qu'ils veulent réellement consommer.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le football, moyen de rapprochement des communautés de réfugiés ici à Washington. Dans une école secondaire, des enfants réfugiés ou issus de parents réfugiés ont participé à un match de football organisé par l'association One Journey. Jun So a assisté à la rencontre. Voici son reportage relaté par Yakuba Wedraogo.
Ces enfants et adultes sont venus d'horizons divers. Leur histoire commune, ils sont tous soit réfugiés, soit issus de parents réfugiés. Dans le football, ils trouvent un moyen d'expression et de communion par-delà leurs divergences. Abdul Wahidi, dont la famille a fui l'Afghanistan il y a 2 ans, était parmi eux.
Il y avait le problème de la guerre et de l'école. Il y avait 2 jours de classe, puis 2 jours sans classe. Et donc mon père a décidé de quitter le pays. Quand je suis venu dans ce pays, j'ai commencé à jouer au football depuis l'année dernière. J'ai rencontré des amis venant d'Afrique et d'autres pays. Le football me rend heureux.
La première journée annuelle de football pour les réfugiés a été organisée par l'association One Journey, en collaboration avec d'autres groupes. One Journey est une structure basée à Washington et cherchant à faire prendre conscience de la crise mondiale des réfugiés. Matt Tully est le coordonnateur de One Journey.
Aujourd'hui, nous avons des gens réfugiés issus de la communauté des réfugiés ainsi que des membres de la communauté en général qui se réunissent pour jouer ensemble. Le but de tout cela est de rassembler les gens de sorte à leur montrer leur humanité commune à travers l'amour du football.
L'un des groupes partenaires de One Journey est l'association Change Experience Through Sport. Son fondateur, Serena Fright, s'occupe de 40 enfants réfugiés.
Le football traverse les barrières culturelles. Il rassemble les gens, les jeunes en particulier. Les enfants proviennent de différentes cultures. Si un ballon de foot est en face d'eux, il devient alors leur langage commun. Ils n'ont pas besoin de parler la même langue, mais ils peuvent jouer ensemble. Et aujourd'hui, c'était un parfait exemple. L'un des objectifs de l'association est de faire en sorte que des groupes de personnes qui n'ont aucun lieu en commun puissent se mettre ensemble.
Ce fut l'expérience de Mohamed Hashimi, réfugié afghan.
Je suis originaire de l'Afghanistan. Jouer au ballon me rend vraiment heureux et sociable. Et c'est vraiment amusant de jouer. C'est une façon de parler autrement à quelqu'un.
Un autre groupe communautaire à but non lucratif, District Sport, et l'équipe de football du championnat américain basée à Washington, DC United, unissent leurs efforts pour apporter leur soutien aux communautés de réfugiés. Felicia Chaplin est la chargée des relations publiques de DC United.
Nous sommes vraiment heureux d'avoir notre mascotte et un de nos joueurs ici. Nous accueillons chaleureusement ces réfugiés dans notre communauté et dans notre ville.
Les organisateurs estiment à 200 le nombre de personnes ayant pris part à la rencontre inaugurale et ils espèrent que ce lien qu'ils ont établi va se perpétuer pendant les années à venir.
À
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, zoom sur la situation des réfugiés dans le monde à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée le 20 juin de chaque année. Plus de 25 millions de personnes sont forcées de quitter leur pays pour s'installer dans un autre. Les guerres, les violences et la persécution sont les principales causes de ces déplacements de population constitués pour une bonne partie de jeunes et de femmes. Leurs conditions de vie dans les camps, leur insertion dans leur pays d'accueil, leur prise en charge, ce sont autant de questions que nous aborderons avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Les habitants d'Amérique centrale ne sont pas les seuls à traverser la frontière mexicaine dans l'espoir d'immigrer aux États-Unis. De plus en plus d'Africains se joignent à eux dans un voyage périlleux, parfois au prix de leur vie. Dans notre nouvelle série intitulée Témoignages d'immigrants, nous allons à la rencontre de certains de ces migrants africains qui nous racontent leur voyage, qui commence pour la plupart à leur atterrissage en avion au Brésil. Arzuma Compaoré a rencontré Junior, ressortissant de la RDC. Il nous raconte comment lui, ses deux filles et sa femme, alors enceinte, ont survécu à cette partie de l'aventure.
Le Brésil, c'était un passage, comme tous les pays qu'on a passés, pour atteindre ici, arriver sur les États-Unis. La première chose, quand tu fais ton voyage, pour arriver sur les États-Unis, en marchant, premièrement, il faut traverser l'océan, haute mer. Le ciel avec les gens morts là. On a passé les cadavres. Les gens qui sont morts, après 3 minutes, 1 heure de temps avant que nous on arrive. Moi je marchais, on était ensemble avec des frères africains, beaucoup de personnes venaient. On venait pour la route pour les États-Unis, on cherche les refuges. On a marché pendant 3 mois à la Cap Gadan, là. Il faut traverser la forêt. La forêt, là, on appelle ça les chemins de la mort. Beaucoup des animaux sauvages, il n'y a rien à manger là-bas. Des enfants, des femmes enceintes. Comme moi, j'ai été victime, on s'est perdu. 9 jours, on a fait 9 jours à la forêt, moi avec ma femme enceinte, avec mes deux filles. Là-bas, dans cette forêt, personne, il n'y a tant personne. Hein. Ma femme marchait lentement, les autres sont avancés. Hein. On a fait 4 jours sans manger, sans nourriture. Tu vois les pierres qu'on a vues dans les films de Jésus-Christ. Grand, barrière la route. Il faut sauter pour traverser. Monter. Moi, j'étais en bas. J'étais déjà des premières étapes. Au-dessus, là-bas, beaucoup de pierres. Moi, je vois ma femme venir. La ventre se battait. Poum, 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 il vient. J'ai forcé. Elle s'est collée ici, sur la tête, pour l'épaule. Je l'ai retenue. Après, je l'ai poussée aussi, lentement. Elle est rentrée là-bas et l'a traversée. Après moi, j'ai traversé, j'ai monté. Et on s'est assis là-bas, on l'a réanimé. J'ai demandé, l'enfant bouge? Elle m'a dit, oui, elle bouge. Gloire à Dieu, on est arrivé à destination. On est arrivé au portail du Mexique, Tapachula. On nous a accueillis. Le premier mois, on nous a abandonnés dehors. Les autres ont fait 31 jours, 25 jours. Avant que l'immigration nous donne les papiers.
Quelle immigration? L'immigration américaine ou mexicaine?
Mexicaine. L'immigration mexicaine. Quand on est arrivé en États-Unis les premiers jours, on nous faisait l'enregistrement. Après, ma femme, la douleur d'accouchement. Ils nous ont amenés, ils ont appelé l'ambulance, policiers américains. On l'a amené à l'hôpital. Ma femme a mis au monde. J'ai gagné un bébé, un garçon, c'est bon, américain. C'est déjà bon. Alors maintenant, ici, la vie commence. Stabilité.
Voilà, c'était le témoignage recueilli par Arzuma Compaoré. C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Michel Joseph, à la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.
Le monde aujourd'hui. diffusée partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.